Sommes-nous des communautés chrétiennes joyeuses et heureuses? Je pose cette question-là car depuis Pâques, nous n'arrêtons pas dimanche après dimanche de célébrer une fête particulière et des fêtes de vie. Tout le temps pascal, c'est d'abord la question de la résurrection, la vie qui est plus forte que la mort. Est-ce que nous intégrons vraiment bien ça dans notre quotidien de vie, dans notre manière de concevoir, de percevoir notre existence ici sur Terre? La mort n'a pas le dernier mot, c'est la vie qui est vainqueur. Ensuite, nous avons eu l'ascension, c'est l'éternité qui s'ouvre à nous, dans la vie de Dieu. Nous avons eu la Pentecôte, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui vient résider en nous. Nous avons eu la fête de la Trinité, le mystère par excellence de Dieu, son identité. Et aujourd'hui, nous avons à célébrer ce que nous appelions avant la fête Dieu, qui est la fête du corps et du sang du Christ. Une fête que nous célébrons à chaque messe. Donc si nous le voulons, chaque jour, au moins chaque dimanche. Je voudrais prendre du temps sur ce mystère-là qui est tellement central dans notre vie. Car bien souvent j'entends des gens qui n'ont pas trop l'habitude de la messe, quoique, nous dire « bon, la première partie elle est assez intéressante, on entend des textes, ça nous remémore des histoires ». Ça nous fait replonger dans le passé, ou avec l'Évangile, on comprend mieux la pertinence des messages de Jésus dans ses enseignements ou dans sa manière de fonctionner, dans ses attitudes. Donc tout ça c'est intéressant et l'homélie habituellement nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes par rapport à notre foi, c'est intéressant. Mais souvent la deuxième partie est plutôt, on fait toujours la même chose, comme disait un de mes beaux-frères. Franchement, ça fait 2000 ans que vous avez la même pièce de théâtre, il faudrait peut-être voir à changer. Exactement, 2000 ans que chaque jour, on refait exactement la même chose. Tout particulièrement à partir de l'offertoire. Alors comme aujourd'hui c'est la fête du corps et sang du Christ, prenons le temps de nous arrêter sur ce mystère et sur cette pratique de célébration, sur cette liturgie eucharistique. Ça commence avec l'offertoire. Et première chose assez étonnante, c'est à ce moment-là qu'on se met à faire la quête. Il y en a qui disent « mais vous ne pouvez pas attendre la fin de la messe là pour venir s'occuper d'un truc très matériel et financier ». Ils ne voient que le côté pratique. Or, l'argent que nous donnons, qu'évoque-t-il ? Que représente-t-il ? Il représente notre travail, quel qu'il soit. Mon travail est égal à un salaire. Et la liturgie eucharistique commence par l'offertoire. Quand on fait une grande fête, qu'on développe un petit peu, on fait une procession. Le pain et le vin sont là-bas au fond de l'église. Il peut y avoir des fleurs, il peut y avoir des bougies, pour dire que nous sommes des lumières, puisque c'est le Christ lui-même qui nous le dit. Il y a la beauté des fleurs. Et avant le pain et le vin, il y a aussi, justement, la quête. En fin de compte, quand des gens disent « oui, ben là, franchement, c'est là où presque je m'ennuie », c'est le moment le plus capital et où, en tant que prêtre, nous avons besoin de chacun des membres de l'Assemblée. Car, lorsqu'il y a la procession, lorsque le pain et le vin passent à notre niveau, à notre banc, il faudrait, intérieurement, vouloir sauter dans la patène ou dans la coupe pour dire « je participe ». à cette offrande. C'est une partie de moi, c'est ce que j'ai mis dans la quête, dans le panier. Cet argent, c'est mon travail, c'est ce qu'il me représente, excusez-moi. Il me représente. C'est une partie de moi qui est là dans le pain et le vin. Je participe au sacrifice du Christ. Hein, quand il y a des gens qui disent on va assister à la messe, non, tu n'assistes pas, tu participes. Quand ils disent c'est une belle cérémonie, non, une cérémonie, de fait, on assiste d'une manière extérieure. Nous sommes dans une célébration, et la célébration, je participe, je suis acteur. Et ça change tout. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a le plus d'intensité à avoir. Et c'est pour ça que les réponses qu'il va y avoir entre le prêtre et l'assemblée sont ritualisées pour qu'on n'ait pas à réfléchir. On est bien au-delà de la réflexion. Ça, c'était juste avant avec la parole de Dieu. Mais là, on est au cœur de notre être. Je donne ma vie à Dieu et on va voir ce qu'il va en faire. Donc arrive le pain et le vin avec toute l'assemblée présente. Et on sait bien que le pain, avant, c'était des grains de blé. Et on peut prendre cette comparaison que nous sommes chacun de nous un grain de blé, et que si le grain de blé veut devenir du pain, il faut qu'il accepte d'être moulu, d'être fracassé, d'être écrasé. Quand je veux me mettre dans la corbeille ou dans le pain et le vin, je peux apporter les bonnes choses que je vis, je peux évoquer en moi, dans mon cœur, mes projets. Mais je peux aussi offrir toutes mes blessures, toutes mes douleurs, toutes mes souffrances, ou celles de ceux qui sont autour de moi. Je suis dans le pain, chacun de nous. Je suis dans le vin qui va devenir du sang, le sang versé. Pour notre salut, le Christ a cette folie de nous impliquer, cette folie de nous incorporer dans le sacrifice qu'il va faire de sa vie. Lorsque j'élève le pain et le vin et que je le présente à Dieu, il y a cette formule très 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 forte. Fruit du travail des hommes et des femmes de ce monde. Fruit du travail de nos mains. Nous offrons nos vies au Seigneur. C'est cela que j'offre à chaque fois que j'élève le pain et le vin. C'est l'ensemble, non seulement de l'assemblée, ça, nous en sommes conscients et nous voulons le vivre pleinement, mais on dit bien le travail de toute l'humanité. Donc même tous les autres qui ne sont pas là à la messe, ils sont quand même présents dans ce pain et ce vin qui sont offerts. C'est le Christ lui-même qui l'a choisi. Quel mystère extraordinaire. Et nous allons faire que ce pain et ce vin qui sont là sur l'autel, c'est-à-dire le lieu du sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice. Il faut bien entendre, parce que des fois on a une mauvaise compréhension, « Ah oui, je fais un sacrifice pour toi », ou c'est un peu misérabiliste, un peu doloriste, « Ah oui, franchement, j'ai fait des sacrifices pour que toi tu réussisses », ou ça. Non, le sacrifice, c'est rendre sacré. Ce que j'offre de moi dans le pain et le vin, je désire que ça devienne sacré. Et ça va être le sacré à son apothéose, puisque par l'action de l'Esprit-Saint, ça va devenir le corps même du Christ, le corps même de Dieu. Oui, vraiment, la foi des chrétiens est folle. Nous sommes des fous. Nous avons cette prétention de faire advenir le corps de Dieu ici, à l'autel. Et là, cela se vit par des gestes très simples, l'imposition des mains, qui est depuis toujours, même dans le peuple juif, la présence de la puissance de Dieu pour transformer les choses. Et la parole même du Christ, quand il dit que ce pain devient son corps et que le vin devient son sang, livré pour vous et pour la multitude. N'oublions jamais cela. Le Seigneur n'est pas venu que pour les gentils petits catholiques, ni pour les chrétiens, ni pour les croyants. Il est venu pour la multitude. Il ne veut en perdre aucun. Ici, dans le pain et le vin qui deviennent corps et sang du Christ, il y a une parcelle de chaque humain. Et alors, quand j'élève le corps du Christ, ou le sang du Christ, juste après les paroles consécratoires, j'en vois certains qui baissent vite la tête. Mais je l'élève spécialement pour que tu puisses venir l'adorer, que tu viennes le regarder. Si tu écoutes au fond de toi, tu entends ce cri qui est aussi dans la Bible, « Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux. » À ce moment-là, il te faut poser un regard d'adoration. Tu as Dieu en face de toi. Le Christ nous fait ce cadeau. Oui, bien sûr, on peut baisser la tête en disant « j'en suis pas digne », mais arrêtons de regarder notre misère. Il s'offre à nous. Regardons le Christ, c'est lui qui nous sauve, c'est pas en regardant notre misère. Venons adorer celui qui se livre entre nos mains. Ensuite, il y a le moment de la communion. Là aussi, quel beau mystère. Combien de fois je suis en contemplation devant cette diversité de mains qui viennent se tendre. Mais vraiment, je suis vraiment en contemplation. Qu'est-ce qu'une main tendue dit beaucoup de la personne? Il y a toutes sortes de manières de venir recevoir le corps du Christ. Alors certains, c'est en le prenant directement à la bouche, et d'autres avec les mains. Il y a des mains très délicates, bien apprêtées, il y a des mains noueuses, il y a des mains meurtries, il y a des mains amputées, il y a des mains calleuses, le travail dur de la terre. Il y a ceux qui vont de suite attraper Jésus, il y a ceux qui vont vraiment faire de leurs mains. Comme disait Saint Justin dans les premiers siècles, tu poses ta main gauche en dessous, et on sait que la main gauche, traditionnellement, dans toutes les cultures du monde, c'est ce qu'il y a de mauvais, et tu mets ta main droite au-dessus pour faire le trône du Dieu que tu vas accueillir dans le creux de ta main. Nous faisons un trône pour Dieu. Et là, Dieu, le Christ, se dépose entre tes mains. Tu as une ou deux secondes pour faire un acte d'adoration extraordinaire. Quel mystère! Une simple petite pastille de pain contient en réalité la présence de Dieu. Et il se met là entre tes mains pour te dire « J'ai confiance en toi. Que vas-tu faire de moi ?» Vous imaginez ça? T'arrêter quelques instants. Poser ton regard sur l'Eucharistie, sur le corps du Christ. Et alors à ce moment-là, ne me réponds pas « merci » quand je te dis « le corps du Christ ». Parfois, il y en a quelques-uns comme ça qui disent ça. Non, tu ne dis pas « merci ». On n'est pas dans un échange banal. On est dans une rencontre fondamentale. Et tu as à répondre « amen » pour dire « oui, je crois fondamentalement que Dieu est présent là, entre mes mains ». C'est ça le « amen ». Qui vient du plus profond de toi. Et alors, il faut bien comprendre qu'au moment où tu vas communier, puisque au départ, le pain qui était là, c'était fait de tous les grains humains de la terre, Tu comprends bien que si tu veux que ce corps du Christ soit digeste, il ne faut pas que tu aies un regard d'aigreur ou d'exclusion sur quelque humain que ce soit. Sinon, le corps du Christ aurait sûrement un goût âcre. Et voilà un autre mystère. Dieu se fait nourriture pour toi. Nourriture spirituelle. Une présence qui te permet d'aller plus loin sur ton chemin. Alors en liturgie, il y a toujours une chose qui m'étonne un peu. C'est cette pratique de rester debout tant que le prêtre n'a pas enfermé le ciboire dans le tabernacle. Un peu comme si on resterait très très tendu tant que le Seigneur il est là, et puis qu'une fois qu'il serait dans le tabernacle, on pourrait fermer la porte et ça y est, on peut se détendre, il est plus là. Comme s'il était un surien ou je ne sais trop quoi. Mais tu viens d'ingérer le Seigneur en toi. Il est là au plus profond de toi, pourquoi t'occuper de celui qui est là-bas au tabernacle? Il t'attend dans son cœur à cœur. N'attends pas, presque une fois que tu as communié, tu reviens à ta place, et même s'il y a des chants, tu chantes plus. Tu viens, enfin le Seigneur est venu chez toi, comme il l'avait promis, il est là, mais sois présent à lui dans ta demeure la plus intime. Tu t'assois, tu t'agenouilles, tu restes debout, peu importe la truc, mais tu es avec lui là. Tu regardes pas qui c'est qui est dans la procession, tu t'occupes pas de ce qui se passe avec les enfants de cœur ou celui qui est là-bas à l'hôtel ou quoi que ce soit. Tu es avec ton Seigneur et ton Dieu. Et enfin, quand tu vas repartir de cette église, tu vas être toi-même le tabernacle de Dieu pour le porter au monde. Chacune des communions est un acte éminemment missionnaire. Tu as à témoigner de celui qui te fait vivre. Je vous souhaite une bonne fête du corps et sang du Christ.